Il me faudra me dire, et ça devrait suffire, que n'étant pas un louis d'or, il ne se peut que tous m'adorent. Il me faudra me dire, et ça devrait suffire, que n'étant pas un louis d'or, il ne se peut que tous m'adorent. Ne suis qu'une pièce de peu, aimez-moi mieux. Aimez-moi mieux. Cher public de Radio Vassivière, aujourd'hui, nous allons vous lire des récits juifs du ghetto de Prague. Ces textes ont été écrits pour la plupart entre 1513 et 1595. Ils ont été imprimés vers 1850 et traduits en français en 2004. Publié chez Vitalis. Cher public, comme dans les spectacles de Comédia dell'Arte, il est important d'ores et déjà de vous demander de nous pardonner toutes les imperfections ou erreurs qui ont pu se glisser là à notre insu. Ces histoires du ghetto de Prague m'ont plu parce qu'elles contiennent beaucoup de merveilleux avec un M majuscule. Et Einstein a dit qu'un être humain qui a perdu sa capacité d'émerveillement est déjà mort. Donc, des histoires pour s'émerveiller et puis des histoires pour apprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un golem ? Une amie m'a dit un jour qu'elle regrettait que ses enfants n'aient eu aucune éducation religieuse car ils n'avaient pas accès à la signification de très nombreux tableaux peints sur des thèmes religieux. Enfin, ces textes, je les ai découverts chez ma fille où je dors parfois et garde deux petites filles. Mais en fait, ce sont elles qui me gardent, oui, et aussi ma fille Lucie, son compagnon Clément et leur vache. Ce sont eux qui me gardent. Tant que nous nous gardons dans le cœur les uns des autres, nous serons vivants et animés d'énergie belle. Aujourd'hui, j'ai invité Michel Lulek à lire avec moi ses somptueuses histoires suite à un voyage qu'il fit, voici quelques années, en Pologne pour découvrir les racines de sa famille. Je le remercie pour sa présence et surtout pour sa voix que nous avions entendue en 2016 quand il a lu le texte « Mes propriétés » d'Henri Michaud à la salle des fêtes de Faux-la-Montagne, dans la montagne Creuse où se trouvent beaucoup de trésors. La création du golem. En 1580, un religieux du nom de Thaddaeus, antisémite fanatique auquel la paix et l'harmonie semblaient ne guère convenir, s'efforçait une nouvelle fois de semer le trouble et la discorde et de ranimer les accusations de meurtre rituel à l'encontre de la communauté juive. Le rabbi Loew, mis au courant de la chose, adressa une prière vers là-haut, espérant qu'on lui révélerait le moyen de combattre l'ennemi. Il obtint la réponse suivante sous la forme de mots classés dans l'ordre alphabétique.
Ata bra golem devuka aromer, vdikzar zedim shevel torfe jisrael. Tu crées un golem avec de l'argile et tu détruis les méchants qui dévorent Israël. Le rabbi Loew interpréta ce message comme une incitation à créer un être vivant avec de l'argile grâce aux lettres envoyées par le ciel. Il manda son gendre, Jisjak ben Simson, ainsi que son plus jeune garçon, le lévite Jacob ben Shachim Sanson, et il leur confia le secret de la création du golem. Quatre éléments me sont nécessaires pour cette création, et c'est pourquoi je vous demande de m'assister. Toi, Jisjak, tu es le feu. Toi, Jacob, tu es l'eau. Et moi, je suis l'air. Nous trois, allons ensemble créer le golem à partir du quatrième élément, la terre. » Il leur expliqua avec la plus grande précision comment ils devaient expier leurs péchés et se purifier pour être prêts à créer un être à l'image de l'homme. Le jour dit, les trois hommes se rendirent à la mikvé, le bain rituel, et s'y immergèrent avec une dévotion toute particulière. Ils retournèrent ensuite, sans mot dire, à la maison, où ils s'acquittèrent des chazotes, les psaumes et louanges de minuit récités, tournés vers Jérusalem. Alors seulement, ils se rendirent aux portes de la ville, sur la rive droite de la Moldao, en quête d'argile. À la lumière des torches, ils se mirent avec fébrilité au travail, en chantant des psaumes, et façonnèrent avec l'argile un corps de 3 aunes de long avec tous ses membres. Le golem gisait devant eux, le visage tourné vers le ciel. Les 3 hommes se placèrent à ses pieds de manière à pouvoir regarder très exactement son visage. Il gisait là, corps sans vie et inerte. Le rabbi Lev demanda à Jitzak de faire 7 fois le tour du corps d'argile en partant de la droite et lui confia la zirufim, la combinaison de lettres qu'il devrait réciter en exécutant son office. Quand ceci fut fait, le corps d'argile devint d'un rouge de feu. Le rabbi Lev demanda au lévite Jacob de faire le même nombre de tours, toujours en partant de la droite, et il lui confia la zirufim qui était celle de son élément. Quand Jacob eut terminé, le rouge de feu pâlit et l'eau afflua dans le corps. Des cheveux poussèrent sur sa tête et les doigts de ses pieds et de ses mains se garnirent d'ongles. Le rabbi Lev fit alors lui aussi le tour du corps, lui introduisit dans la bouche un schème écrit sur un parchemin et se prosternant vers l'est et l'ouest, puis le sud et le nord, ils prononcèrent ensemble les mots suivants. Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Les 3 éléments, le feu, l'eau et l'air, insufflèrent la vie au 4e élément, la terre. Le golem ouvrit les yeux et regarda autour de lui d'un air étonné. Le rabbi Lev lui dit « Lève-toi !» Et le golem se leva. Ils habillèrent le golem comme un chlamès et il ressembla bientôt à un être quelconque auquel il n'aurait plus manqué que la parole. Mais on le verra plus tard. Ceci se révéla être un avantage. Aux premières lueurs de l'aube, 4 hommes regagnèrent la maison. Tout en cheminant, le rabbi Lev dit au golem « Sache que nous t'avons façonné avec une motte de terre. Ton devoir sera de protéger les Juifs de la persécution. Tu t'appelleras Joseph et tu habiteras au rabbinat. Toi, Joseph, tu suivras mes ordres. Tu iras où je t'enverrai, quel que soit l'endroit et l'instant, dans le feu et dans l'eau, même si je t'ordonne de sauter du toit ou d'aller au plus profond des eaux. » Joseph hocha la tête et fit des signes d'acquiescement. Arrivé à la maison, le rabbi Lev expliqua qu'il avait trouvé dans la rue un étranger muet et qu'ayant pitié de lui, il l'avait pris comme serviteur du rabbinat. Il interdit toutefois aux gens de maison de se servir du golem pour leurs propres besoins. Lai 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 lai
Lai, 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 lai. Pinchas. Il y a plus de 200 ans de cela, vivait à Prague un pauvre juif qui gagnait péniblement sa vie pendant la journée en parcourant les ruelles, un sac sur le dos, pour faire le commerce de vieux vêtements. Ce même homme passait toutefois ses nuits dans sa pauvre mansarde à étudier la loi mosaïque. Bien qu'il n'économisât pas sa peine, son misérable travail lui permettait à peine de pourvoir aux besoins de son foyer. Il serait d'ailleurs certainement mort de faim, avec femme et enfant, si un duc d'une grande bonté n'avait pris en affection et aidé cet homme pieux et droit. Tous les vendredis, le duc demandait à son protégé de lui indiquer ses revenus de la semaine. Il ne manquait jamais de délier les cordons de sa bourse si cela s'avérait insuffisant pour passer dignement le sabbat, selon les enseignements de la loi mosaïque. Pinchas, car tel était le nom de cet homme, devait faire de même avant chaque jour de fête, et le duc lui donnait de l'argent chaque fois qu'il en avait besoin.
Pour le pauvre Pinchas, le duc était un ange envoyé par Dieu. Aussi, l'expression de sa gratitude s'exprimait-elle sous la forme d'une prière adressée à l'Éternel. Chaque fois que le duc lui offrait de l'argent, Pinchas levait les yeux vers le ciel et disait « Dieu, tu n'abandonnes pas tes enfants et tu m'as de nouveau aidé. » De même, quand le duc lui demandait comment il avait passé les jours de fête, il répondait invariablement « Lui, Dieu, m'a aidé. » Ce comportement blessait le duc qui pensait « Que ce peuple est donc ingrat. Je comble ce juif de bienfaits et l'aide pour qu'il puisse dignement fêter le sabbat et il dit à chaque fois que c'est Dieu qui l'a aidé. J'aimerais bien voir si Dieu l'aidera si je lui retire mon aide et m'abstiens de lui faire un don comme je le fais tous les ans pour la Pessa. » Pour cette fête, qui aurait lieu dans quelques jours à peine, chaque juif était tenu de faire des provisions pour 8 jours. Et depuis plusieurs années déjà, le duc donnait de l'argent à Pinchas afin qu'il pût acheter ce qui lui était nécessaire pour ses jours de fête. Cette année-là, toutefois, le mécène décida de laisser œuvrer Dieu et répondit au juif qu'il lui rappelait avec humilité l'imminence de ses jours de fête. « Mon cher Pinchas, je connais actuellement quelques difficultés. Il te faudra cette fois acheter toi-même le matzot. L'argent ne rentre pas. J'ai eu de grosses dépenses. Bah, ton Dieu saura bien te venir en aide. » Le visage de Pinchas se voila de tristesse. Ne perdant toutefois pas confiance dans le Dieu de ses pères, il répondit avec mélancolie mais sans s'émouvoir, « On ne peut rien y faire. Dieu me viendra en aide. » Le cœur lourd, il rentra à la maison. Sa femme l'attendait avec impatience et ses enfants se réjouissaient d'avoir bientôt des vêtements neufs. Ils le reçurent avec moult questions fébriles. « Combien as-tu reçu cette année ?» lui demanda sa femme. « Rien. Je n'ai rien reçu, » répondit Pinchas tristement. Il jeta son sac vide dans un coin et se hâta pour s'acquitter de la prière du soir. Déçu, sa femme se mit à vitupérer. Les enfants pleurèrent et l'angoisse s'empara de Pinchas. Il se retira sans un mot dans sa mansarde et ferma la porte afin d'y étudier la Torah, comme à son habitude, jusqu'à minuit.
Minuit approchait. Ses enfants dormaient sur leur pauvre couche de paille et sa femme elle-même s'était endormie sans toutefois cesser ses imprécations. Assis devant un grand folio, Pinchas lissait sa longue barbe, fort préoccupé par un passage contradictoire et difficile du Talmud. La petite fenêtre s'ouvrit alors si violemment que les vitres en tintèrent. Un être horrible tomba aux pieds de Pinchas. Effrayé, celui-ci se leva d'un bond, se réfugia à l'abri du grand livre, comme derrière un bouclier, et il récita d'une voix tremblante une formule contre les mauvais esprits. Il entendit alors des éclats de rire, ce qui ne fit qu'augmenter son désarroi. Des mazikim, des mauvais esprits, étaient venus pour le tourmenter. Pinchas resta ainsi tenant toujours le livre devant lui, jusqu'à ce que sa femme, que le bruit avait réveillée, frappe à la porte close. Reprenant courage, Pinchas se risqua à regarder par-dessus son Talmud. Il vit alors une silhouette grotesque à l'apparence humaine, étendue sur le sol, les membres écartés. Oh ! Pinchas reconnut un singe mort, ce qui raviva sa frayeur. Il avait en effet une opinion assez basse des singes, ceux-ci n'étant à ses yeux que des créatures à demi-humaines, que certaines personnes de rang gardaient chez elles et entouraient d'affection pour leur apprendre les bonnes manières et les rendre heureuses. Pour lui, un tel singe ne valait pas davantage qu'un prosélyte. Le juif effrayé se remémora alors tous les tristes événements des années précédentes. « Maintenant, ils vont venir, murmura-t-il. Ils vont tous nous exterminer, mes frères et moi. Ils diront que c'est moi qui l'ai tué. Seigneur, aie pitié du pauvre homme que je suis. » Sa femme effrayée avait entre-temps réussi à ouvrir la porte. Elle lui demanda ce qui s'était passé. Pinchas lui raconta ce qu'il avait vécu. « C'est un stratagème pour attirer la vindicte sur nous. Il faut nous débarrasser de ce singe !» s'exclama sa femme. « Oui, mais comment ?» objecta Pinchas. « Dois-je l'envelopper dans des étoffes et le jeter à l'eau ?»« Mais je pourrais à tout instant me faire surprendre par les sbires. Je n'ai en outre pas la force suffisante pour porter ce cadavre. » Le couple se concerta un long moment. Tout à coup, Pinchas s'écria avec entrain. « Sais-tu ce que nous allons faire ? Nous allons brûler cette créature à demi-humaine. Vite, allume le feu. Pendant ce temps, j'irai chercher du bois. » Une flamme vive s'éleva bientôt dans le poêle. Pinchas et sa femme prirent le singe par les pieds. Mais alors qu'ils le traînaient vers la cuisine, ils entendirent le tintement d'une pièce sur le sol. Ils lâchèrent aussitôt le cadavre. Pinchas se saisit de la lampe, sa femme alluma une torche de sapin et tous deux se mirent à chercher fébrilement sur le sol. Quelle ne fut pas leur joie quand ils découvrirent un ducat qui scintillait dans un coin de la pièce. Ils n'étaient toutefois pas encore au bout de leur surprise. En effet, à peine se furent-ils de nouveau saisis du singe, plein d'une énergie nouvelle, qu'un flot de pièces s'écoula de sa gorge. Pinchas leva les yeux vers le ciel et s'écria « De toute ma longue vie, jamais je ne l'ai vu abandonner un homme pieux ou laisser ses enfants souffrir de la faim. » Puis il prit un long couteau et découpa la bête en petits morceaux dans l'espoir de trouver la source de cette manne. C'est alors qu'il découvrit avec surprise que l'estomac du singe était rempli de ducats. Quand il en eut extrait toutes les pièces, Pinchas découpa ce singe envoyé par Dieu et le jeta dans la flamme. Ils lavèrent ensuite les ducats et les mirent dans une bourse. Puis ils frottèrent le sol pour en faire disparaître le sang. Avant même le lever du jour, il ne restait plus la moindre trace du singe, si ce n'est les pièces de monnaie qui, au grand bonheur de Pinchas, gonflaient sa bourse.
Le Talmud dit « Ce que vous avez dépensé pour le faste des jours de fête, Dieu vous le rendra généreusement. » Aussi, le très pieux Pinchas donna-t-il à sa femme tout ce qu'elle lui demandait. Ils achetèrent des vêtements pour les enfants, du linge flambant neuf, des bonnets tricotés de fil d'or et moultes autres bonnes choses. Le meilleur des vins et la plus tendre des viandes ne devaient pas manquer à leur festin. Dans cette maison, la veille encore si misérable, régnait maintenant l'aisance et la félicité. Jamais encore, depuis le départ d'Égypte des enfants d'Israël, on avait fêté la Pessa avec une telle ferveur et une telle gaieté chez Pinchas. La lampe à 8 branches au-dessus de la table et les lanternes aux abat-jours polis sur les murs éclairaient d'une lumière vive la pièce chaude et proprette. De gros coussins unissaient leurs fleurs pour former une couche à côté de la table et le maître de maison s'y coucha, enveloppé dans un linceul. La maîtresse de maison s'assit face à son mari dans un long spencer blanc plissé, avec sur la tête une coiffe dorée ornée de dentelles empesées de rubans de soie. Elle versa du vin dans les verres et les enfants s'assirent, rayonnant de bonheur, autour de la table. Sur la table, dans un saladier en étain, se trouvaient 3 matzots enveloppés dans un grand torchon, mais aussi du réfort, du cresson, des œufs frits, un morceau de viande et une fiole d'eau salée. On éleva le saladier vers le ciel face aux convives et ceux-ci récitèrent le verset suivant « Voici le pain de misère que nos pères ont mangé en Misraïm. Quiconque a faim vienne et mange. » Au même instant, un carrosse descendit la ruelle en cahotant et avant même que Pinchas ait fini sa phrase, on frappa à la fenêtre.
Blanc de peur, Pinchas se leva de sa couche et s'enquit d'une voix tremblante de l'importun. « Ouvre, Pinchas, je suis venu célébrer la Pessa avec toi, » répondit une voix à l'extérieur. Ah, tous crurent un instant que cet hôte tardif était le prophète Élie, qui précisément en ce moment rendait visite à tous les hommes pieux. Comme le voulait la coutume, un verre du meilleur vin l'attendait d'ailleurs sur leur table. Pinchas ouvrit en hâte la porte et son bienfaiteur entra. « Ne te laisse pas détourner de ta prière, mais, que vois-je là ?» s'exclama le duc en regardant avec étonnement autour de lui. « Serais-tu soudain devenu riche ?»« Oui. » répondit le juif avec un grand sourire. Le Dieu Tout-Puissant m'a aidé. Il y a quelques jours encore, j'étais un homme pauvre et je ne savais pas que je célébrerais la Pessah comme il le sied à un juif. Dieu m'a aidé et je suis un homme riche maintenant. Ne voudrais-tu pas me raconter comment une telle chose est advenue ? Demanda le duc. Pinchas raconta alors fidèlement au duc ce qui s'était passé, et celui-ci, qui l'écoutait attentivement, ne put retenir une exclamation de surprise quand le juif mentionna le singe. « Quoi ? Un singe ? Mais c'est peut-être le mien. Mon singe est mort soudainement il y a 3 jours, et souhaitant me débarrasser de l'animal, j'ai demandé à ce qu'on l'enlevât de la maison. » « Mais qu'a donc ce singe à voir avec ta chance ?» En entendant cela, Pinchas se dirigea vers la cassette qui contenait l'argent, l'ouvrit, en sortit le sac de pièces et le tendit au duc avec ces mots. « Tout est là, à part quelques pièces que j'ai dépensées pour célébrer la Pessa. » « Que veux-tu faire avec ce sac ?» demanda le duc étonné. « Cet argent était dans le singe était à vous, l'argent aussi, » répondit le juif. Le duc se tourna vers le serviteur qui l'accompagnait. « Que sais-tu de cette histoire ? » lui demanda-t-il. « Je vous demande pardon, monsieur, » répondit le serviteur effrayé. « Votre homme à tout faire a voulu jouer un tour à ce pauvre Pinchas, et c'est lui qui a jeté le singe dans sa mansarde. » En entendant cela, le duc sourit. « Comment ? L'homme a tout faire. J'ai donc fait emprisonner ce pauvre homme pour un vol qu'il n'a pas commis. Quoique, Ce séjour immérité en prison lui servira d'expiation pour la mauvaise action commise envers Pinchas. Le singe a certainement voulu m'imiter et c'est lui qui a mangé l'argent qui a disparu de mon secrétaire. Il m'a vu tordre entre mes dents les pièces d'or que je soupçonnais être fausses et a cru que l'on pouvait les manger. « Voici votre argent !» l'interrompit Pinchas en lui tendant le sac. « Que non pas !» s'exclama le duc. « Tu es un honnête homme, Pinchas. Le dieu de tes pères t'a donné ce trésor et il est à toi. Cette année, j'ai refusé de te donner de l'argent comme je le fais habituellement pour voir si ton dieu t'aiderait à ma place. Ne dis-tu pas en effet toujours « Dieu m'a aidé !» Je dois tout à fait. Toutefois, reconnaître que tu avais raison d'avoir confiance en Dieu. Je veux passer cette soirée avec vous, mais ne veux en aucun cas vous importuner. Faites comme si je n'étais pas là. Ma femme viendra également pour constater ce miraculeux hasard. Il envoya le carrosse chercher sa femme et tous deux ne retournèrent à la maison que quand Pinchas eut achevé le seder par la strophe « Dieu tuera l'ange de la mort. »
Grâce à sa sagesse et à son labeur, Pinchas fit fructifier l'argent du duc et il fut bientôt à la tête d'une imposante fortune. La communauté, séduite par sa sagesse et son honnêteté, le choisit comme primat. Malgré sa fortune, Pinchas demeura l'un humble et droit. Les rabbins les plus sages se rencontraient dans sa demeure, sa main secourable se tendait vers les nécessiteux et sa table accueillait chaque jour les affamés. Il fit également construire plusieurs logements pour les pauvres dans la ruelle où il habitait et c'est lui aussi qui fit ériger la magnifique synagogue qui porte son nom. Cette ruelle s'appelle la Pinchas Gas.
Eyarilo, alilo, oitanoma, beyetlem saoe. Eyarilo, alilo. La colère du golem. Le rabbi Leuv avait coutume d'établir dès le vendredi après-midi une sorte de plan de travail pour le golem, afin de n'avoir à parler avec lui qu'en cas de nécessité absolue, le jour du sabbat. D'une manière générale, le rabbi Leuv ne lui donnait rien de particulier à faire ce jour-là, si ce n'est de monter la garde et de rester vigilant.
Un vendredi après-midi, il oublia toutefois de donner au golem son plan de travail, et celui-ci s'en trouva fort désœuvré. À peine le jour touchait-il à sa fin, on se préparait déjà pour le sabbat, que le golem traversa la ville comme un insensé qui voudrait tout détruire sur son passage. En voyant cela, les gens s'enfuirent en criant « Joseph Golem est devenu fou ! Joseph Golem est devenu fou !» Il en résulta une grande panique qui ne tarda pas à parvenir aux oreilles du rabbi Leuve qui était en prière dans la vieille nouvelle synagogue. Celui-ci sortit de la synagogue et sans même voir le golem, cria vers le ciel « Joseph, reste où tu es !» Les gens virent le golem se figer comme une statue de sel là où il était. Il semblait avoir soudain réussi à maîtriser sa sauvagerie. On indiqua au rabbi l'endroit où se trouvait le golem. Parvenu près de lui, le rabbin lui murmura à l'oreille « Rentre à la maison et va te coucher !» Le golem le suivit, docile comme un agneau. Le rabbi Leuv retourna ensuite à la synagogue où il ordonna que l'on chantât une nouvelle fois le chant du sabbat. De ce jour, jamais plus il n'oublia, dès le vendredi après-midi, de donner au golem son plan de travail. Il savait en effet que le golem aurait pu détruire Prague dans sa colère s'il ne l'avait pas calmé à temps.
dire qu'il n'y aura même pas un moment, jamais un seul moment, où l'on pourra savoir si l'on a fait bien, si l'on a fait mal, un jour ou jamais. Car la somme des jours que chacun connaîtra ne permet de rien dire sur l'emploi de ses jours, puisque la mort même n'est qu'un accident pour n'importe quand. Les chansons « Jamais » et « Au verso de ce monde » sont écrites par Elsa Triolet et Eugène Guivic. Elles ont été mises en musique par Michel-Philippe Gérard.
Le marchand de vin et son cocher. Ce jour-là, le rabbi Jecheskel Landau, le célèbre rabbin de Prague, était assis dans son fauteuil, le front barré de larges plis. Devant lui, sur une grande table, s'étalait un nombre impressionnant de folios. La porte qui s'ouvrit violemment en grinçant dans ses gonds le tira soudain de ses études. Deux hommes entrèrent. À leurs habits, le rabbin reconnut aussitôt en eux deux de ses compatriotes. Il était lui-même originaire de Pologne. Selon la coutume, il les salua avec le traditionnel « Shalem Alechem » et après les questions d'usage « D'où venez-vous »« Où allez-vous »« Est-ce loin ?» etc. Le rabbin s'enquit du but de leur visite. Les deux hommes ouvrirent la bouche en même temps pour répondre. Aussi le rabbin pria-t-il l'un d'eux de prendre la parole.
« Je m'appelle Joseph Cohen et suis le fils de Simon Cohen, le négociant en vin de Varsovie. Cet homme s'appelle Shahim Jelis et travaille comme cocher pour moi depuis 5 ans. Il m'accompagne dans tous mes voyages et s'est toujours comporté loyalement envers moi. Mais, ce Rorschodesh, quand je me réveillais, nous étions alors en Autriche, je cherchais en vain ma bourse et constatais qu'elle avait disparu. Elle renfermait tout mon argent, 1000 ducats. J'appelais alors Shahim, qui est donc ici, et lui demandais s'il savait où était mon argent. Celui-ci répondit, non sans ironie, « Comment se fait-il que vous soyez soudain en possession d'une telle somme, vous qui êtes mon cocher ? Auriez-vous volé quelqu'un ?» Je crus tout d'abord que Shahim plaisantait, bien que ce ne soit pas là son habitude, et je lui en fis la remarque. Je constatai toutefois que cette allégation insensée était devenue une idée fixe chez Shahim. Il la répétait en effet avec grande conviction, disant que j'étais son cocher et lui, mon maître. C'est pourquoi nous sommes convenus de vous demander, à vous, vénérable rabbi dont la sagesse est connue sur la terre entière, de démasquer l'imposteur parmi nous. En tout premier lieu, je vous demanderai de m'aider, moi la dupe, à rentrer en possession de mes 1000 ducats. C'est là toute ma fortune. J'ai femme et enfants, et cette perte nous réduirait, moi et toute ma famille, à la mendicité. Joseph Cohen parla encore longtemps de la sorte, puis quand son long discours fut enfin terminé, le rabbin réfléchit brièvement. Il demanda ensuite à Shahim de lui relater sa version des faits. Celui-ci narra alors la même chose, peut-être même avec davantage de conviction encore, et des expressions on ne peut plus émouvantes. Il était, lui, Shahim, la dupe, et Joseph Cohen, l'imposteur. Quand il eut à son tour fini de parler, le rabbin feuilleta les folios qui s'étalaient devant lui, comme s'il y était écrit lequel des deux hommes était le marchand de vin et lequel était le cocher. Il ferma soudain ses livres et s'adressa à la conscience des deux hommes. Aussi obstiné que rusé, le coupable refusa toutefois d'avouer. Le rabbin, qui était fort malin, décida alors d'utiliser un autre stratagème pour le démasquer. Il demanda aux deux hommes de se présenter chez lui le lendemain matin à une heure précise et ordonna à son serviteur de ne laisser entrer ce jour-là, dans son bureau, quiconque ne serait pas attendu. Le lendemain, à l'heure dite, les deux juifs de Pologne se présentèrent à la maison du grand rabbin. Le serviteur les fit attendre dans le couloir et alla prévenir son maître. Il revint bientôt en leur disant que le rabbi ne pouvait pas les recevoir tout de suite et les pria d'attendre un peu dans l'antichambre. Mais alors que les deux hommes s'entretenaient dans l'antichambre, le rabbi Jézékiel, qui tempêtait à grand bruit dans son bureau, ouvrit violemment la porte à l'improviste et cria d'un ton rogue « Que le cocher entre dans mon bureau !» Celui-ci, qui n'était autre que Jachim, ayant l'habitude d'être interpellé de la sorte et surtout pris au dépourvu par un tel artifice, s'exécuta aussitôt. Le rabbin le reçut avec un sermon enflammé. Et Jachim, voyant qu'il ne pouvait plus nier sa faute, l'avoua avec contrition et rendit au marchand de vin l'argent qu'il lui avait volé. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la communauté juive de Prague et les ruelles se remplirent bientôt d'une foule de curieux, avides de voir ces deux juifs polonais devenus célèbres bien malgré eux. Mais c'est encore sur les ennemis du grand rabbin que cette nouvelle fit le plus grand effet. Devant une preuve aussi indéniable de sa sagesse et de son habileté, ils posèrent les armes et rejoignirent le rang de ses meilleurs amis. Prague, et avec elle toute la Bohême, se réjouit en apprenant que la sagesse du rabbi avait permis de découvrir aussi rapidement la vérité. À cette époque, où qu'ils se rencontrassent, les Juifs ne parlaient plus que du rabbi Jézékiel Jampolis, on le connaissait davantage sous ce nom, car c'est ainsi qu'on l'appelait dans son pays, et des deux Juifs polonais. Cet événement, pour aussi insignifiant et peu glorieux qu'il fût, n'en fut pas moins à l'origine de son éternelle réputation de grande sagesse, sagesse dont il ne cessa pendant les 40 années de son ministère à Prague de livrer de nombreuses preuves. On entendit encore longtemps dans Prague les gens qu'il avait connus personnellement dire de lui « Le Zadik était un Ninus de Shlomo Amelek ». Dès lors, le rabbi Jézékiel vécut paisiblement, incontesté dans sa communauté. Ses œuvres, Noda Biruta, Slach, en firent l'un des plus célèbres docteurs du Talmud du monde. Ça n'est pas Dieu possible que ce soit un peu vrai, ce sentiment que j'ai d'être seul et toujours au verso de ce monde, comme si tous les autres étaient du bon côté et savaient et faisaient ce qu'il est bon de faire. Sans ça, le monde irait bien mieux, et même moi, je le saurais. La 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 la. La destruction du golem. Le temps passa et la communauté n'ayant plus été depuis longtemps importunée par quelque accusation malveillante que ce soit, le rabbi Lev manda son gendre Jistchak et son plus jeune garçon, le lévite Jacob, et il leur dit « Le golem n'est plus indispensable maintenant, car nous ne sommes plus menacés. Nous allons donc faire disparaître le golem. » C'était au début de l'année 1593. Le rabbi Lev demanda au golem de ne pas dormir au rabbinat cette nuit-là, mais de transporter son lit dans le grenier de la vieille nouvelle synagogue pour y passer la nuit. Tout cela se passa en secret autour de minuit.
Quand, vers 2 heures du matin, son gendre et le lévite Jacob arrivèrent chez lui, le rabbi Lev leur demanda si un mort, comme le serait le golem, devait être considéré comme quelque chose d'impur. C'était en effet une question très importante, car l'homme de religion n'aurait alors pas pu participer à la destruction du golem. Le rabbi Lev trancha en estimant que ce n'était pas le cas. Les trois hommes, accompagnés du serviteur, montèrent alors au grenier où dormait le golem. Ils commencèrent alors leur œuvre de destruction. Ils firent systématiquement à l'envers tout ce qu'ils avaient fait lors de sa création. Tout comme ils s'étaient mis au pied du golem lors de sa création, ils se placèrent maintenant à sa tête. Les mots lus dans le livre de la création le furent cette fois à l'envers. Cette cérémonie terminée, le golem devint une motte d'argile inerte, ce qu'il avait été avant qu'il ne lui insuffle la vie. Le rabbi Lev appela alors le serviteur, lui prit ses bougies et lui dit de déshabiller entièrement le golem, puis de brûler discrètement ses vêtements. Ils recouvrirent ensuite le golem de vieux châles de prière et des reliques des livres qui, selon la tradition juive, étaient conservés dans le grenier de la synagogue. Dès le lendemain matin, le bruit se répandit que le golem s'était enfui de la ville à la faveur de la nuit. Seules quelques personnes connaissaient la vérité. Le rabbi Lev fit annoncer dans toutes les synagogues et dans tous les lieux de prière qu'il était dorénavant rigoureusement interdit de monter dans le grenier de la vieille nouvelle synagogue et qu'on n'y conserverait plus les reliques des livres et d'autres objets sacrés. Rabbi Lev et la rose. Une nouvelle fois, la communauté juive de Prague était victime d'une épidémie qui emportait jeunes et moins jeunes. Les cadavres s'entassaient dans le Beit Sharim, les bras et l'espace manquaient pour enterrer les corps. Le rabbi Lev était déjà un fort vieil homme. Il allait sur ses 100 ans, âge dont témoignaient ses cheveux et sa barbe d'un blanc immaculé. Le rabbi Lev interrogeait en vain ses livres, espérant y trouver l'origine de cette épidémie, mais surtout le remède pour la contrer. Dans sa grande détresse, il se rappela le rêve qu'il avait visité lors de cette horrible épidémie dont tant d'enfants avaient été victimes. Ainsi se présenta-t-il la nuit suivante, accompagné de ses bochérim et des serviteurs de la synagogue, à la petite porte dans le fond du cimetière.
Au moment où le rabbin voulut se saisir de la clé, la porte s'ouvrit et un homme blême, grand et maigre, sortit, une très longue liste à la main. Le rabbin sut tout de suite que cet homme grand et maigre n'était autre que la mort. La liste était celle des gens appelés à mourir le lendemain. Le rabbi Lev fut saisi d'effroi en y lisant son nom et ceux de tous ses compagnons. Il s'empara de la liste et la déchira en petits morceaux. « Cette fois, tu as réussi à m'échapper, » dit la mort, « mais prends garde de ne pas me rencontrer une seconde fois. » Le rabbi Lev, sachant que la mort n'aurait de cesse de s'emparer de lui, ne tenait guère à une telle rencontre. Il consulta de nouveau ses livres et, comme il était également adroit en mécanique, il se fabriqua un petit appareil qui le protégerait de la mort et qu'il porterait dorénavant toujours sur lui. Que la mort rôde près de lui, le petit appareil se mettait à sonner comme une vieille montre et le rabbin pourrait ainsi échapper à son destin. La mort se cacha sous toutes les formes possibles pour l'approcher. Mais, grâce à sa ruse, le talmudiste la décela à chaque fois. Elle prenait un jour l'apparence d'une petite vendeuse, pour mieux se déguiser le lendemain en pêcheur apportant le poisson du sabbat, puis en mendiant, ou même en monsieur distingué venu lui présenter ses hommages. Chaque fois, son appareil le prévenait du mortel danger. De longues années passèrent ainsi. Un jour, ses élèves, sa famille et ses amis vinrent lui témoigner de leur estime et de leur gratitude à l'occasion de son anniversaire. Très ému, le rabbi Leuve oublia son appareil dans son bureau et alla à la rencontre de ses hôtes avec un large sourire. La plus jeune de ses petites filles entra en dernier, une magnifique rose à la main. Le rabbin se réjouit de ce cadeau et se pencha pour en apprécier le parfum. Il tomba en ce même instant sur le sol, mort. La mort s'était dissimulée dans la rose. Dans la pièce attenante, le petit tintement de l'appareil magique retentit fort longtemps, si longtemps que ses ressorts en vinrent à se rompre. Personne ne se douta toutefois un seul instant que c'était dans cette belle goutte de rosée qui brillait sur la fleur que la mort s'était dissimulée. Le rabbi Leuve gît dans un tombeau semblable à un temple contre le mur occidental du cimetière, aux côtés de son épouse. Il y est représenté par un lion sculpté dans la pierre du sarcophage. Des deux côtés de son tombeau s'étirent les longues rangées des tombes de ses 33 bochérim préférés.